Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand-Besançon et Marie Blanc, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Julien Dumont et Serge Viguier. La gourmandise de ce matin est un cabinet de curiosités virtuelles mis en ligne par le généreux Albert Ballas sur le site lecompendium.com. Un compendium, c'est la brève synthèse d'une totalité, un abrégé. Ce musée en ligne donne à voir de magnifiques instruments scientifiques, anciens, aux noms souvent poétiques et devant lesquels on se met à rêver. Le spectrographe à prisme de quartz, le polarimètre à pénombre, l'excitateur universel, la boussole déclinatoire et le planimètre polaire sont quelques-uns des captivants objets qui nous sont racontés. Les aréomètres permettent par exemple d'apprécier la densité des liquides, celui destiné au lait porte le fantastique nom de galactomètre. Le site fourmi d'inventions dont le fantôme de Jules Verne pourrait se délecter, nous mettrons le lien sur le site de l'émission. Lorsqu'on a lancé notre invitation, c'était il y a longtemps, notre apothicaire de l'âme était secrétaire d'État en charge du numérique. Entre-temps, il est devenu secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Et depuis mars dernier, a retrouvé son poste de député La République En Marche de Paris 19e pour pouvoir se présenter aux municipales. Son être politique se dessine le 21 avril 2002 quand il prend sa carte au PS, parti dans lequel son âme d'entrepreneur ne trouve finalement pas sa place. Depuis petit, notre apothicaire découvre, imagine et initie. À 13 ans, il remporte un concours de jeunes inventeurs organisé par Science et Vie Junior avec un camembert permettant de mesurer des angles plus facilement qu'avec un rapporteur. Avant cela, il s'encanaille au Palais de la Découverte où il se passionne pour l'informatique. À 16 ans, il travaille à mi-temps chez Club Internet, il devient délégué syndical CFDT et plaide avec succès devant les prud'hommes la requalification de tous les CDD en CDI. Il a 20 ans et s'apprête à obtenir une maîtrise de droit et un master en finance et stratégie. Parmi ses entreprises, citons aussi une affaire d'autocollants muraux, la co-création de La Ruche qui dit oui et une start-up pour accompagner les grands groupes dans leur démarche d'innovation. Notre homme se serait bien vu avocat, mais trouve le temps judiciaire trop long, un peu comme moi, cette introduction. Bonjour, Mounir Majoubi.
Bonjour.
Mounir Majoubi, vous nous avez dit avant l'émission que votre vrai remède à la mélancolie, c'était la mélancolie elle-même, l'accueillir et l'accepter. Je suis obligée de vous poser cette question rituelle. Quel est votre rapport à la mélancolie et arrivez-vous à l'accueillir et à l'accepter ?
Oui, et différemment à différents moments de la vie. À chaque fois que le rythme s'est ralenti, c'est le moment où la mélancolie arrive. C'est-à-dire que souvent dans la suractivité, vous l'avez un peu raconté là dans ma vie, il y a des moments de pause. Par exemple, il y en a eu un très fort quand on a perdu l'élection avec Ségolène Royal. Là, ça en est suivi un grand moment où beaucoup de sentiments m'ont envahi, où j'ai eu beaucoup à réfléchir. Et d'ailleurs, c'était drôle puisque je venais d'obtenir une bourse pour partir aux États-Unis. Donc j'ai passé un an aux États-Unis à faire de la recherche, et donc je peux dire aujourd'hui qu'il était un an de mélancolie, mais de mélancolie assez heureuse, mais je pense que j'étais un peu entre parenthèses de ma vie à ce moment-là.
Vous avez, vous les hommes politiques en général, des emplois du temps frénétiques, il n'y a pas de place pour la mélancolie?
Alors moins, parce que vous êtes toujours dans l'action, il faut toujours laisser une place à la mélancolie, ce qui serait cet état de d'hyper-réflexion, d'hyper-réflectivité, où on se laisse envahir par d'autres choses, mais qui sont en fait un moment où on se regarde soi et on regarde le monde autour de nous. Je pense qu'il faut jamais le perdre, ça.
Il faut toujours être
capable de l'accueillir et accepter que c'est là et que ça vient. Et parce que si on le camoufle par l'action, alors on trahit un peu le sens de l'action. L'action, elle doit être là parce qu'on l'a profondément voulu et désiré. Elle doit pas être juste une façon d'empêcher la mélancolie de venir.
Et justement, Mounir Majoubi, les contrastes ne sont pas trop violents, puisque là, vous évoquez une mélancolie douce, mais ça ne vous arrive jamais dans ces rythmes d'emploi du temps incroyables, quand tout à coup, ça s'arrête, d'un coup d'être pris par un accès de tristesse incommensurable?
Je dois vous avouer que depuis mai 2017, il n'y a pas forcément eu beaucoup de moments où cela peut arriver. Mais j'ai beaucoup d'amis, vous savez, dans la politique, et puis je vous ai raconté mon épisode post-élection. ceux qui ont consacré 10 ans de leur vie à la politique et qui se sont fait battre aux élections, je peux vous avouer que ceux-là, certains sont encore dans un épisode de mélancolie, mais certains me l'ont décrit comme un moment assez heureux, en disant « j'ai passé 10 ans la tête dans le guidon, et là je suis un peu paumé, c'est vrai, mais je ressens des choses que je n'avais plus ressenties. Je reprends le temps de me regarder, de regarder le monde autour de moi, et ça n'apporte pas beaucoup de solutions, ça n'apporte pas forcément beaucoup de réponses, mais ça m'apporte, moi, de me retrouver. » Donc j'écoute leurs témoignages, et je me dis que ça arrivera bien assez tôt, mais que pour l'instant, je suis très heureux dans cette hyperaction.
Alors enfin, dernière question avant d'annoncer le sommaire aux auditeurs. La fatigue que connaît tout homme politique, puisque vous manquez régulièrement de sommeil, cela n'influe-t-il pas sur votre humeur ?
J'essaye de ne pas me laisser influencer par mes états. Ce que j'essaye de faire aussi surtout, c'est d'essayer de me reposer suffisamment. Et on peut compenser par des micro-siestes. Je dois vous avouer que nous discutons parfois entre collègues sur la meilleure façon de récupérer. Il y a toujours des petits temps morts dans une journée qui doivent nous permettre de récupérer, parce que c'est ce qu'on doit aux gens qui nous ont élus, c'est ce qu'on doit aux gens qui nous ont nommés. On doit être là pleinement, à 100%. Et c'est très temporaire, homme politique. Donc tant qu'on est là, on doit se donner jusqu'au bout.
Donc être en bonne santé, accessoirement.
Accessoirement, et donc faire très attention à ça.
Chers auditeurs, voici le sommaire avant de faire une micro-sieste pendant la chanson qui suit. Mais si jamais les programmateurs musicaux m'entendent, je vais me faire taper sur les doigts. Dans quelques instants, Mounir Majoubi convoquera François Ozon, de l'optimisme pragmatique et hédoniste, le compositeur Alexandre Borodine, Dalida, son amoureux, la cuisine, une recette poétique, Diego Rivera et Victor Hugo. Juste après le morceau Dreams du trio L'Épée, The Liminiana, c'est Emmanuel Seigné. Écoutez Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Mounir Majoubi.
Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent, ils m'adorent, mais pourtant moi je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme...
2002, le film musical « Huit femmes » de François Ozon, adapté de la pièce de théâtre homonyme de Robert Thomas, créé en 1958. On entend Catherine Deneuve interpréter une chanson de Sylvie Vartan, « Toi jamais », un passage que vous affectionnez, Mounir Majoubi. La chanson est pourtant assez mélancolique. Elle compare l'homme qu'elle aime à tous ses courtisans. Ils la flattent, ils lui disent qu'elle est belle, qu'il l'aime. Et lui, l'homme aimé, jamais.
Parce qu'il n'est qu'un homme, c'est ce qu'elle dit ensuite dans le refrain.
Ouais.
Oh, ce film, il est... Ce film est une parenthèse, ce film est issu d'une pièce de théâtre et ça se voit, donc tout se passe dans le huis clos de cette maison, et c'est une comédie musicale. Et il y a ces actrices fantastiques qui se mettent à chanter. Et je vous en avais donné deux, mais en fait j'aurais pu vous en donner 15 des chansons, puisque chacune d'entre elles, je les trouve fantastiques. Il y a certains de ces airs qui me restent encore, t'es plus dans le coup, papa. Enfin, elles sont toutes là, quoi. Et quand Catherine Deneuve chante et qu'elle le fait avec sa voix et qu'elle parle d'amour, et elle parle d'un amour pas très équilibré, évidemment.
Mais rien n'est équilibré dans ce film.
Ah, ben, tout est
comme chez Ozon.
Fin, comme le début, tout. Et quand elle le chante et quand je la vois le chanter, moi, je suis hypnotisé et ça me met dans cet état supérieur de parenthèse joyeuse. Et donc, j'aime beaucoup réécouter certaines des chansons de ce film.
Vous l'avez vu souvent, ce film, Mounir Majoubi?
Je l'ai vu souvent, mais surtout, vous vous rendez compte, quand je le vois, j'ai 18 ans et je ne sais encore que peu de choses de la vie et de l'amour. Et donc, je me construis aussi avec ces histoires, ces chansons. Et donc, c'est pour ça que, vous savez, ce sont ces films que vous voyez très jeunes et qui vous perturbent ou qui vous intéressent à ce moment-là et puis qui vous restent pour longtemps.
Alors, c'est un film, malgré tout, on le disait, assez déséquilibré dans les rapports humains. Et puis... très artificiel, mais dans le bon sens du terme, tout est beau, les cadres sont soignés, les costumes sont époustouflants, la distribution est étincelante. On voit quand même un moment, je ne veux pas gâcher le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais un moment, un baiser mythologique entre Fanny Ardant et Catherine Deneuve. Est-ce que vous aimez l'artifice, Mounir Majoubi?
J'aime l'univers fictionnel, j'aime lire, j'aime aller au cinéma, j'aime être envoyé ailleurs, j'aime aussi la science-fiction qui est encore plus fictive, encore plus construite. J'aime que l'esprit humain puisse nous amener dans des univers que la réalité ne nous offre pas. Et c'est ça qui est beau face à une œuvre d'art. Après, il se trouve que si on revient plus sur l'art traditionnel, j'ai une grande passion pour le réalisme et l'hyper-réalisme, voire le réalisme social. Mais tout de même, j'aime très fort me laisser prendre, partir loin ailleurs.
Alors il y a une autre chanson qui vous enchante, Mounir Majoubi, c'est Salty.
Pas la peine de se retourner sur le tableau décroché, la grève s'efface. Il n'y a plus de traces. Et moi je vis ma vie à pile face, tous mes sentiments à pile face, indifféremment à pile face, et de temps en temps, un coup je passe, un coup je casse.
Toujours dans 8 femmes de François Ozon, pile ou face interprétée par Emmanuel Béart, la version originale était de Corinne Charby en 87, et là elle donne une leçon de séduction à Isabelle Huppert, qui fait tante Augustine, une tante assez austère, qui finalement va prendre le parti de devenir plus féminine.
Tout à fait, et si je peux faire un témoignage encore plus personnel, cette chanson, c'est la première chanson que j'ai écoutée en boîte de nuit, quand de façon pas très normale, à 16 ans, je suis allé en boîte.
Mais qui ne l'a pas fait?
Et j'ai écouté cette chanson, et c'était assez vintage, parce que c'est 2000 hein, quand j'ai 16 ans, cette chanson elle est des années 80. Et de la voir ressurgir comme ça, dans un film de François Ozon, par elle, j'avais trouvé ce moment assez saisissant. Et son interprétation, si vous la comparez à la version originale, apporte quelque chose de plus. Elle apporte une sincérité qu'il n'y avait peut-être pas dans la version de Corinne Charby.
vous avez vu Mounir Majoubi, ce montage extraordinaire où quand Emmanuel Berre a dit un coup je casse, on est passé à Vivaldi, concerto en ut majeur opus 8 numéro 6. On entend le plaisir pour illustrer votre système de pensée consolatoire, un optimisme pragmatique et hédoniste. C'est-à-dire
profondément aller chercher dans son quotidien et dans la réalité la plus proche les sources de joie et de plaisir que l'on peut construire au quotidien. Une des façons d'illustrer ça, c'est la bouffe, c'est la cuisine. C'est pour ça que j'en parle tout le temps, j'en parle beaucoup. Mais c'est aussi une balade, c'est aussi de marquer une rupture dans la journée et de partir. Et c'est ce que j'appelle cette espèce d'optimisme hédoniste. C'est entre se lamenter et se priver, il y a une autre voie qui est ouverte aux hommes, qui est de partir toujours à la conquête et se dire que c'est possible, mais aussi parfois de se donner des objectifs très accessibles. D'où cet hédonisme du quotidien qui passe par la joie, qui passe par... Parfois, vous savez, on se moque de moi, on me dit « Mounia, il sourit tout le temps, il est un peu con-con, etc. » Mais au bout d'un certain temps, les gens disent quand même « Il dure son sourire » ou quand même « Ça tient son truc ». Ben oui, ça tient. Et puis ça me tient. Et puis il se trouve que je trouve que ça tient aussi les gens qui m'entourent. Et puis cette idée de se dire qu'on va peut-être y arriver... J'y crois très fort. Et puis, on peut donner un autre mot à ça. Ça peut aussi s'appeler une espèce de résilience positive. It gets better. Ça va être mieux après. Donc, même quand c'est pourri, même quand ça se passe mal, même quand c'est un moment, je me raccroche à ça et je me dis que ça va aller mieux, que ça va être bien et qu'en plus, là, tout de suite, je vais en tirer un peu de joie immédiate.
Et vous vous entraînez à ça, Mounir Majoubi, ou c'est plutôt naturel chez vous?
Et ça a commencé assez tôt dans ma vie. J'ai grandi dans une famille plutôt pauvre, dans un contexte familial pas forcément très simple. Et toujours, 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 je me suis raconté comme une petite musique ce « It gets better ».
Une confiance dans le dénouement des choses.
Une certitude dans le dénouement positif des choses.
Plus qu'une confiance alors.
En se disant que de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Voilà comment je me suis construit. À chaque fois que j'étais dans une situation où de toute façon, je n'avais pas les manettes. Soit parce que j'étais trop jeune, trop enfant, ou parce que trop faible dans le système. Je me disais, un jour ça va changer, et puis ce sera peut-être moi qui va changer la règle du jeu pour que ça change aussi pour les autres.
Mais par le mot pragmatisme, vous privilégiez les faits à la théorie. Est-ce que vous vous considérez, Mounir Majoubi, comme un idéaliste?
Un idéaliste pragmatique.
Pragmatique, donc dans les faits, les actions. Donc quand vous vous dites ça va s'améliorer, c'est confirmé par les faits.
C'est confirmé par les faits, mais je crois même en un optimisme performatif.
Oui, une autoprophétie.
Comme une autoprophétie qui vous fait vous-même modifier vos comportements, mais surtout qui transforme les comportements des autres autour de vous. Parce que vous allez vers un chemin, parce que vous dites que ça va mieux se passer, eh bien vous donnez confiance à ceux qui sont autour, ils croient pas trop. Soit qu'ils ne sont pas des optimistes de nature, soit qu'ils ne soient pas forcément dans la recherche de la joie. Eh bien, si vous leur apportez, je vous assure que vous arrivez à convaincre parfois.
Ça ne vous arrive jamais d'être découragé?
Jamais, ou pas en ce moment, certainement pas. Et vous savez, pendant longtemps dans ma vie, j'ai été entrepreneur, j'ai été délégué syndical, À chaque fois, j'avance en me disant, on va réussir à faire avancer les choses. Et au moins, on aura un peu fait avancer les choses. Quoi qu'il arrive, on aura un peu fait avancer les choses. Parce que, à partir du moment où on les dit, à partir du moment où on prend conscience qu'il se passe quelque chose, c'est déjà le début d'une avancée. Et ça me rend heureux.
Le Prince Igor, opéra du compositeur, chimiste et médecin russe Alexandre Borodine, composé entre 1869 et 1890, année de la mort du compositeur qui laissa son œuvre inachevée, une œuvre qui fut complétée par Alexandre Glazounov et Nikolaï Rimsky-Korsakov. On entend les danses polovtiennes interprétées sous la direction de Vaclav Smetadsek par le chœur et l'orchestre philharmonique de Prague. J'ai réussi à prononcer toutes les lettres. Vous vous souvenez, Mounir Majoubi, de votre première écoute?
Oui, et c'est l'école. J'ai étudié le russe pendant une dizaine d'années, c'était ma LV2, au collège et au lycée. Et un jour, la prof nous parle de Borodine, Et elle nous fait écouter un petit extrait. Je trouve ça génial. Et donc, c'est la première fois que moi-même, ensuite, je vais acheter un CD d'opéra. C'est le premier CD d'opéra de ma vie, quoi. C'est Prince Igor. Et je l'écoute en boucle. Il était en deux CD à l'intérieur. Et ce moment des danses polovtsiennes qui dure, une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes, il est hypnotique. Et surtout, il y a plein de morceaux là qui ont été repris dans le cinéma, qui ont été repris dans les musiques populaires. Un petit morceau qui a été repris dans du hip-hop. En fait, c'est un opéra extrêmement accessible. Et là, j'ai une nouvelle télé connectée à la maison et où j'ai pu me connecter au nouveau service du Met, l'opéra new-yorkais. Et là, en métropole, opéra, ils mettent tous leurs opéras en ligne sur abonnement. Et je retrouve une version de Prince Igor jouée au Met, et je l'ai regardé tout d'un trait en me couchant très tard, parce que c'est un peu long, et j'ai trouvé ça fantastique.
C'est la Russie du XIIe siècle, et puis il y a une grandiloquence guerrière, un lyrisme et une grâce, mais brutale. Il y a quelqu'un qui fait du cheval, c'est sûr.
Il y a quelqu'un qui fait du cheval, c'est sûr, mais les danses polovtsiennes, il y a un moment où il y a des chants, donc il faut les imaginer dans le désert. Et donc, tout à l'heure, on parlait d'optimisme résilient. Toi, le vent, toi, le zéphyr qui passe devant nous, emmène-nous là-bas. Ces gens-là sont au milieu de nulle part et se disent qu'il y aura bien un moment, un chemin, et que peut-être le vent les libérera. C'est pas beau comme image?
Si. Moi, je veux bien me joindre à eux.
Allons, rejoignons.
On y va. Votre deuxième antidote musical, Mounir Majoubi, laisse rarement immobile. Il s'agit d'un boléro composé dans les années 30 par la pianiste mexicaine Consuelo Velázquez, d'après une aria du compositeur espagnol Enrique Granados. Je ne vous apprends rien. Et la chanson, c'est Bésame Mucho, reprise par Dalida, version disco. Alors, avant qu'on l'écoute, un mot dessus.
Oh, c'est pas un mot qu'il faudrait, c'est des années de discussion qu'on pourrait avoir sur Dalida et puis sur Bésame Mucho. Écoutez, Dalida, c'est énormément de choses pour les Français, c'est beaucoup pour moi, c'est beaucoup pour ma relation avec mes amis, c'est beaucoup pour ma relation avec mes amis les plus proches. Et Dalida, c'est, quand on parlait tout à l'heure d'optimisme résilient, je pense qu'avec elle, on a toujours été dans les extrêmes entre un optimisme résilient et une mélancolie qui vous dépasse et même qui vous emporte. Et je crois que sa gestion de la mélancolie dans sa vie personnelle est à l'image de sa carrière. Vous savez, il m'arrive souvent de réécouter sur des périodes un peu longues, parce que c'était un peu long de réécouter l'intégrale de Dalida. Vous voyez ces périodes. Vous voyez ces périodes heureuses, vous voyez ces périodes légères. Vous voyez les périodes où elle accepte de chanter des trucs pas très bien, pas très bons, pas très bien écrits, pas très bien mis. Et puis des moments où elle redevient très exigeante, et puis des moments où elle est très personnelle. Mais c'est la même chose, c'est plutôt un moment de légèreté. C'est plutôt un moment disco de sa carrière, où elle nous emmène et elle nous invite à faire une parenthèse heureuse.
Exégèse de Dalida dans cette émission avec Mounir Majoubi. On écoute tout de suite ce titre de 1976, Bésame Mucho, Dalida, version disco.
Thank you. On l'a chanté dans les rues, sous des ciels inconnus et dans toute la France. On la croyait oubliée pour mieux nous aimer, voilà qu'elle recommence. Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante.
Après cette chanson d'amour, j'aborde un remède que vous nous avez soumis en bonus. Mounir Majoubi, je vous cite, mon amoureux qui est mon centre du monde. Alors, je n'hasarderai pas de questions parce que j'ai un respect trop absolu de la vie privée. En revanche, je vous laisse nous dire ce que vous voulez à son sujet.
Qu'il est formidable.
Voilà, s'il nous entend, il est formidable. Il paraît, Mounir Majoubi, que votre chanson fétiche, c'est « On ne change pas » de Céline Dion.
Alors ça, je ne vous l'avais pas dit, mais...
Non, j'ai enquêté.
Oui, j'aime beaucoup cette chanson.
C'est sur l'enfance, quel petit garçon étiez-vous ?
Ce n'est pas que sur l'enfance,
ah oui,
cette chanson. C'est sur l'enfance et ce qu'il reste de l'enfance en soi quand on est adulte.
Mais j'allais y venir.
J'étais un enfant très optimiste,
déjà,
très curieux, qui avait très envie d'aller conquérir le monde.
D'accord, un petit garçon ambitieux.
Mais ambitieux de curiosité. C'est-à-dire que ce dont j'avais véritablement envie, c'était d'apprendre toujours plus de choses et de rencontrer toujours plus de monde. Voilà, c'était ça qui m'animait. Et mes passions, c'était la lecture, mes passions, c'était la découverte, mes passions, c'était les sciences, mes passions, c'était l'école. Je prenais beaucoup de joie.
Un appétit du savoir.
Ouais, une joie.
Accessoires et nourriture prêts à 8 heures, 3 dindes rôties, 5 kilos de pain. 1 kilo de caviar, 1 litre de crème chantilly, 1 pièce montée, 1 pièce de bœuf, 3 tartes aux fraises, 6 foies de canard, 1 marmite de flageolets.
Tant pis pour la langue française, cette grande bouffe, elle vous fait bien bouffer, beaucoup bouffer.
Dans un désordre épouvantable, on commence par le boudin à 9h du matin et on continue avec un bon dessert au marron et on enchaîne avec de la choucroute et des huîtres.
Michel Piccoli, dans un reportage sur le tournage du film La Grande Bouffe de Marco Ferreri en 1973 sur l'ORTF. Mounir Majoubi, votre activité réconfortante, c'est la cuisine. Vous avez d'ailleurs passé un CAP cuisine en 2015, je crois.
Ouais. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de cuisiner et de manger ensemble et de cuisiner pour les autres. Des grandes bouffes, des petites bouffes, un dîner du quotidien, un dîner avec pas beaucoup, un dîner avec beaucoup. Cuisiner quand on est pauvre, cuisiner quand on est riche, cuisiner quand on est en vacances, cuisiner quand on a le temps, cuisiner quand on n'a pas le temps. Il y a plein de façons de cuisiner et elles sont toutes magnifiques. Et quand on cuisine et quand on mange, quand on sert, tous ces moments-là, je trouve que c'est des moments de profonde fraternité, de profonde humanité.
Vous vous imposez de faire la cuisine au moins deux fois par semaine.
Oui, au moins deux fois par semaine, notamment pour le monsieur dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que ça me raccroche aussi à ma vie et que moi, c'est cuisiner pour les autres. Et donc, si je ne cuisine plus, je perds un peu de moi. Et donc, c'est plutôt le dimanche. J'essaie au moins une fois dans la semaine de le faire. On fait beaucoup de ce qu'on appelle de batch cooking maintenant. Vous savez, c'est cuisiner une grande quantité une fois par semaine et faire plein de petites boîtes qu'on réutilise au fur et à mesure de la semaine en réassemblant, réaccommodant.
Vous avez des spécialités ?
J'ai plein de spécialités, mais il y en a quelques-unes... que j'apprécie particulièrement. Je redécouvre la joie des légumes.
Alors donc, la joie des légumes, parlons-en de cette joie des légumes.
Mais la joie des légumes, c'est faire des superbes tartes salées où on a deux à trois fois plus de légumes que de pâté de sauce, par exemple. C'est redécouvrir la joie des grands bouillons. Alors il y a le couscous, qui est un très beau bouillon de légumes, il y a le pot-au-feu, il y a tous ces plats où... La viande est importante, mais si on décide de rendre le légume star à l'intérieur, on peut faire plein de choses. Dans un grand bouillon de couscous, vous pouvez mettre tous les légumes de saison.
Et sur France Culture, Mounir Majoubi, vous dites que votre madeleine de Proust, c'est le tagine au poulet et la crème caramel de votre mère.
Ben oui, parce qu'elle aimait bien, pour nous faire plaisir, faire des crèmes caramel au four et le tagine au poulet. Et d'ailleurs, quand je vais la voir, elle continue de me faire, à 35 ans, toujours un tagine au poulet, parce qu'elle sait que ça va me faire plaisir.
Vous avez envisagé un temps d'être cuisinier ?
J'ai complètement envisagé d'être cuisinier, j'ai complètement envisagé même d'ouvrir un restaurant. C'était il y a quelques années, à 3 ans, et la vie en a voulu autrement. Vous savez, les hasards, les rencontres ont fait que j'ai continué à consacrer ma vie au numérique. Et parce que dans ma vie, il y a ces deux passions, la cuisine et le numérique. Mais là, j'ai tout donné au numérique, mais je trouve que ça va très bien ensemble.
Je crois, Mounir Majoubi, justement pour faire une passerelle entre le numérique et la cuisine, que vous avez eu des projets avec le chef Thierry Marx.
Oui, tout à fait. Parce qu'entre le numérique et la cuisine, il y a beaucoup de choses en commun. Il se trouve que c'est deux secteurs qui recrutent énormément. C'est deux secteurs où il y a une très grande tension. Et c'est des secteurs qui sont prêts à donner leur chance à tous. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont raté leurs études, qui sont passés à côté de leur premier job, qui savent plus trop où ils en sont. Eh bien, la cuisine, comme le numérique, c'est des secteurs qui vont vous dire, venez faire une formation de quelques semaines, une formation de quelques mois, et on va vous permettre de trouver un job où vous allez, pour toute votre vie derrière, pouvoir travailler, être payé à votre juste valeur et trouver une nouvelle place dans la société. Il se trouve que moi, j'avais fait ça pour le numérique, en créant toute une série de formations à travers la France. Thierry, il avait fait ça pour la cuisine. Et il se trouve qu'avec sa femme, Mathilde Lécotet, ils ont créé une formation qui faisait à la fois numérique et cuisine. Donc je les ai soutenus, je continue de les soutenir. Je crois que cette initiative, elle est formidable. J'ai pris en stage plusieurs de leurs étudiants et je continue de les suivre.
Alors le livre que vous avez choisi justement pour l'émission, c'est un livre de cuisine aux recettes poétiques, mais vous ne nous avez pas dit de quoi il s'agissait. Est-ce que vous l'avez apporté ou...
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
J'ai même des impressions du Gallica, vous savez.
Gallica, c'est merveilleux. On peut s'y perdre pendant des mois.
Et qui est une édition originale du guide culinaire d'Auguste Escoffier. Qui est...
Donc on peut le trouver en ligne gratuitement,
on
je
le trouve
précise
en ligne gratuitement.
Auditeurs.
Vous pouvez le trouver dans des versions en librairie pas très chères, dans des rééditions récentes. Auguste Escoffier, c'est peut-être le plus grand cuisinier de notre temps. C'est celui qui passe à la fin du 19e siècle d'une cuisine majestueuse, mais pas très bonne, à une cuisine exigeante, équilibrée, faite pour être cuisinée par les familles et par les grands chefs. Les deux à la fois. Et il se trouve que ce monsieur avait un talent, c'était un surdoué, hein, une personne qui était capable de à la fois être dans la sensibilité et en même temps la poésie et en même temps l'exhaustivité. C'est-à-dire que dans ce guide, vous retrouvez, et si vous le lisez en entier, je l'ai fait plusieurs reprises dans ces dernières années, vous allez voir que toutes les recettes un peu à la mode qu'on découvre aujourd'hui, que sa description du sandwich aujourd'hui ressemble à tous ces plats qu'on redécouvre et qui viennent de partout. Donc, il avait tout décrit et c'est dans une langue absolument délicieuse et magnifique.
Qu'est-ce que vous allez nous lire ? Alors vous allez nous donner une recette d'Escoffier ?
Alors je vous ai pris la page sur les œufs sur le plat. Alors oui, je vous la lise ?
Ah bah oui.
Alors je vais vous la lire. Les œufs sur le plat. Les œufs traités par ce mode représentent une espèce particulière d'œuf poché, dont le parfait appoint fait tout le mérite. Leur après s'équilibre sur ces trois points. D'abord, une juste cuisson du blanc. Ensuite, le miroitement du jaune. Et enfin, les soins attentifs, en la plupart des cas, à prévenir l'attachement au fond du plat. Principe de traitement. Les proportions établies dans cette série le sont uniformément pour deux œufs au nombre. La quantité normale de beurre pour leur traitement est de 15 grammes, dont moitié dans l'ustensile et l'autre moitié versée fondue sur les jaunes. L'assaisonnement est de 32 centigrammes de sel pour les deux œufs. Et s'ensuit 5 pages entières de déclinaison de ces œufs sur le plat. Version américaine, anchois, forestière, lilloise, lyonnaise, normande. Et je vous conseille la forestière en mettant les champignons d'abord à griller dans la poêle, puis vous venez casser les deux œufs par-dessus. Vous remettez un peu de persil sur la fin avant de rajouter du poivre. Et voilà, des œufs sur le plat forestière par Monsieur Escoffier.
Merci beaucoup, chef Mounir Majoubi.
Merci.
Alors, dans cette émission, il y a un peu une propagande pour les bibliothèques municipales. Et j'ai lu dans vos activités anti-spleen, j'ai lu que plus jeune, vous passiez beaucoup de temps à la bibliothèque de votre quartier. Je sais que le gouvernement a des projets d'extension des horaires des bibliothèques. Et j'aimerais que vous nous disiez un petit mot sur les bibliothèques municipales.
J'ai une passion pour les bibliothèques municipales et j'ai une passion pour les bibliothécaires municipaux. Et j'y passais tous mes samedis, j'y passais une partie de mes mercredis après-midi. Et j'aimais y aller après l'école quand elle était encore ouverte et que je restais pas à l'étude. C'est un endroit un peu particulier, c'est ni l'école ni la maison. Et c'est un endroit où on peut se poser et profiter du temps pour lire, pour découvrir, parce qu'il y a les livres. Mais il y avait déjà des premiers ordinateurs, et il y en a encore plus aujourd'hui. Je suis allé dans une bibliothèque municipale dans le 12e, et j'ai vu que dans l'espace adulte, il y avait 5 postes de découverte de l'Internet. Et j'ai retrouvé dans le rez-de-chaussée l'espace enfant, avec des enfants qui savent pas encore complètement lire et qui se perdent dans les albums. Puis l'espace presse, que moi j'avais beaucoup consommé quand j'étais petit. Quand je dis consommer, c'est que je lisais l'intégralité de toute la presse disponible à cette époque. C'était avant Internet. Et ben, je trouve que même avec Internet, ça a encore tout son rôle. Et c'est pour ça que dans le plan bibliothèque, l'objectif, c'est qu'il y ait encore plus d'enfants et plus d'adultes qui viennent dans les écoles et que les bibliothèques soient encore plus là dans la vie des citoyens en étant ouvertes plus longtemps le soir, en étant ouvertes le week-end et notamment le dimanche qui est une belle journée de mélancolie, mais qu'on pourrait participer à enrichir en allant passer ce moment mélancolique dans une bibliothèque.
Bah oui, après avoir écouté l'émission, bien sûr. Vraiment, alors moi j'attends ce projet avec impatience. Je sais qu'il a déjà été essayé au Murau dans les Yvelines, mais vraiment, j'espère vraiment que les horaires vont être étendus. Dans un instant, nous nous télétransporterons à Détroit, le temps d'écouter le morceau Light Years de The National.
For me in the sun, laying down to soak it all in before we had to run. I was always 10 feet behind you from the start, didn't know you were gone till we were in the car. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you. Thought I saw your mother last weekend in the park. It could have been anybody. It was after dark. Everyone was lighting up in the shadows alone. You could have been right there next to me, and I'd have never known. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from. from you. Light years away from you.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Mounir Majoubi. Comme œuvre d'art anti-splinotique, vous avez choisi la représentation du travail de Diego Rivera dans sa peinture murale réalisée entre 1932 et 1933 pour le Detroit Institute of Arts dans le Michigan. Le nom de l'œuvre, c'est Detroit Industry Murals. Est-ce que vous pouvez en faire une description ?
Alors, je peux vous décrire l'impression que vous avez en rentrant dans cette salle. C'est une salle où tous les murs sont l'œuvre elle-même. Et donc, vous pouvez y passer plusieurs heures. Et quand je suis rentré dans cette salle, j'y ai retrouvé des choses qui sont très importantes pour moi. C'est une représentation du travail, mais c'est une représentation de toute la ville. On y voit les ouvriers et les ouvrières au travail.
Et c'était les ouvriers de l'usine Ford, puisque c'était une commande de l'usine Ford.
Et on y représente, et c'est là où Diego Rivera est toujours dans son rôle d'artiste critique aussi, du réalisme social, c'est qu'on les voit travailler. Mais ils ne sont pas uniquement glorifiés. Il y a une partie d'entre eux glorifiés. Vous les voyez à l'œuvre, vous voyez leurs muscles, vous voyez ces bras qui tirent, vous voyez ces bras qui soulèvent. Mais vous voyez, et alors on le voit dans la sous-fresque en dessous et sur le deuxième mural qui est face au mural principal, où vous voyez par exemple les bourgeois. Et là, vous voyez une bourgeoise avec son grand manteau qui les regarde comme ça. Puis vous avez ces gens en costume qui ont l'air plutôt d'être ceux qui dirigent ou ceux qui comptent ou ceux qui passent. Et vous avez cette fumée, cette fureur. Vous avez de la fumée derrière, vous avez des fours qu'on voit briller en arrière-plan, vous avez tous ces gens qui font une pause en haut à gauche. Mais ce que j'aime là-dessus, c'est la vie, c'est le travail, et quelque chose qui pour moi est très beau, qui est ma monnaie dans la vie, qui est la sueur. Tous ces gens travaillent, et c'est eux qui créent la valeur. Et c'est là où il y a une vraie critique sociale dans cette œuvre, et qui est pour moi fondatrice même de mon engagement politique. Et la valeur, elle se crée par la force et l'intelligence et la sueur de ceux qui travaillent. Et je crois que c'est très beau et qu'il faut le redire. Et que le sens d'une industrie forte, c'est de redire très fort que les hommes et les femmes qui en sont à leur base sont les créateurs de la valeur.
Mounir Majoubi, il y a une question qui me vient comme ça quand je vous entends faire l'éloge du labeur et de la sueur et du travail. Quand on est homme politique, on n'a jamais la tentation de la procrastination ?
Non, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de procrastiner. C'est-à-dire que quand vous êtes en politique, vous avez à confronter deux horizons temporels. Le long terme, pourquoi est-ce qu'on est en train de transformer la France ? Pourquoi est-ce qu'on veut changer le monde ? Pourquoi est-ce qu'on veut amener et projeter l'humanité vers ce chemin ? Et en même temps, on en est où de ce projet-là ? Comment je suis en train d'exécuter tel plan ? On en est où du plan X ? Qu'est-ce qu'on a fait avec telle personne ? Est-ce que tu sais où on en est avec telle administration ? Est-ce qu'on a réussi à engager tout le monde ? Est-ce que lui ou elle est vraiment impliqué avec nous ? Lançons une consultation. En fait, vous n'avez pas le temps de repousser à demain. Et si vous repoussez, ou si vous acceptez de ralentir, ou si vous acceptez de pas... Eh bien, c'est là où vous respectez pas le pacte que vous avez avec les Français.
Et vous vous faites écraser, surtout.
Vous faites écraser par le temps. Vous faites écraser par ce que l'état naturel préférerait, qu'on ne bouge pas trop. Mais vous, vous êtes là pour ça, pour bouger.
Vous êtes bien belle et je suis bien laid. À vous la splendeur de rayons baignés, à moi la poussière, à moi l'araignée. Vous êtes bien belle et je suis bien laid. Tu feras le jour, je ferai la nuit, je protégerai
ta vitre qui tremble.
La chanson de Malia de Victor Hugo, chantée par Serge Gainsbourg, afin d'aborder gracieusement votre dernier remède, Mounir Majoubi, c'est une citation de Victor Hugo, extraite des Misérables. Écoutons le rythme impeccable de l'ancien député Hugo dans la bouche d'un autre député et candidat aux élections municipales.
Ces Parisiens étaient l'un de Toulouse, l'autre de Limoges, le troisième de Cahors et le quatrième de Montauban. Mais ils étaient étudiants. Et qui dit étudiant, dit Parisien. Étudier à Paris, c'est naître à Paris. En fait, cette phrase, elle m'est restée très longtemps parce que j'ai lu Les Misérables quand j'étais au début du lycée, je devais avoir 14-15 ans, et je me demandais à quel moment j'allais vraiment me sentir faire partie de ça. Je suis né à Paris pourtant, j'étais parisien vraiment, mais j'avais pas l'impression que je faisais partie de cette société des Parisiennes et des Parisiens, de ces gens bien. Et donc cet extrait-là des Misérables, c'est celui qui m'a dit pendant toute mon adolescence et de vie de jeune adulte, quand tu seras étudiant, alors tu seras vraiment parisien. Et donc, j'ai toujours attendu ce jour où j'allais devenir étudiant. Et quand j'ai été étudiant à la Sorbonne, et ensuite quand j'ai été pris à Sciences Po, c'est très con à dire, hein, mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon bah ça y est, t'es parisien.
Mounir Majoubi, merci beaucoup. On va terminer sur ça, si vous le voulez bien.
Merci à vous.
Merci d'être venu dans cette émission. Tous vos remèdes ainsi que la programmation musicale sont à retrouver sur le site de l'émission. Chers auditeurs, j'espère que vous êtes aussi enjoués qu'une dorade sortant victorieuse de son procès. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h avec la navigatrice Isabelle Autissier.